Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Marche de soutien au FARDC face à l'agression du Rwanda à travers le M23 ce mercredi dans quelques villes du pays. À Goma, cette marche de soutien au FARDC s'est muée en une marche de colère. Tandis qu'à Matadi, les manifestants se disent prêts à rejoindre les troupes au front pour combattre l'ennemi. Et puis un colloque sur l'itinéraire du vivre ensemble s'ouvre ce jeudi à Lubumbashi sur initiative de l'archidiocèse de Lubumbashi. Dans ce journal, nous saurons comment les communautés vivant dans la ville appréhendent-elles la notion du vivre ensemble. Enfin, une raffinerie d'or sera très prochainement implémentée à Bukavu. Les travaux sont achevés à 90% d'après les opérateurs miniers responsables de ce projet. Quelles seront les opportunités qu'elle pourra offrir pour le secteur minier artisanal? Nous en parlons avec notre invité dans cette édition, Yacine Songi, directeur adjoint de cette raffinerie. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais tout d'abord, cette information. 5 députés nationaux invalidés hier mercredi à l'Assemblée nationale. La commission spéciale temporaire chargée de statuer sur les cas des députés absentéistes a présenté son rapport. Parmi les 5 députés nationaux invalidés, il y a Henri Mauvois-Sankanyi, Marie-Ange Mouchobekwa, Papi Nyango, Adolphe Mouzitou et Moulimba Limba. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, des manifestations pour dénoncer l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Elles ont eu lieu hier mercredi à Goma, dans le Nord Kivu. La population a marché pour aussi apporter son soutien au FARDC. La marche organisée par la coordination urbaine de la société civile s'est transformée en une marche de colère. Plusieurs centaines de jeunes, hommes, femmes et personnes vivant avec handicap ont envahi les grandes artères de Goma pour exprimer leur ras-le-bol face, selon eux, à cette énième agression de la RDC par le Rwanda et exprimer leur soutien total à l'armée. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants et remonter jusqu'à la grande et la petite barrière. Le point avec Gabriel Wamenyo.
C'est dans une ambiance survoltée que la marche de soutien aux FARDC est partie du croisement communément appelé entre présidents jusqu'au centre-ville en passant par les gouvernorats des provinces. C'est une foule compacte et homogène de manifestants constituée essentiellement de jeunes qui manifestent arborant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Courage et bravoure à nos vaillants FARDC, les M23, c'est le Rwanda de Kagame ». Fin de citation. C'est au niveau du rond-point BDGEL que la marche de soutien aux FARDC s'est rapidement muée en marche de colère. À la grande barrière, cet habitant ne cache pas sa colère.
Dans la paix, tous les militaires sont en train de mourir là-bas. Pourquoi? Hein? M23, c'est qui d'abord?
Les manifestants exaspérés de colère qui se sont massés jusqu'à la grande barrière ont été stoppés par un dispositif important de la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Pour l'instant, le trafic sur les deux frontières reste suspendu et toutes les activités restent paralysées. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
À Matadi, dans le Congo central, la fédération de l'UDPS Matadi a aussi organisé une marche hier mercredi pour protester contre l'agression de la RDC et témoigner son soutien à l'armée. Nous en parlons avec notre correspondante sur place, Nana Plurichimambo.
Des militants de l'UDPS Fédération de Matadi, munis des drapeaux du pays et des insignes de l'armée, ont marché de la place Les Copains dans la commune de Matadi jusqu'au gouvernorat des provinces au centre-ville. À travers cette manifestation, ces militants du parti présidentiel ont tenu à exprimer leur compassion à la population de l'Est de la RDC, victime des affres de la guerre. Selon Dominique Nkodiambet et son secrétaire, cette manifestation avait aussi pour but de soutenir les FARDC qui défendent l'intégrité face à l'agression du pays par les M23 appuyés par les Rwanda. Dominique Nkodiambet.
Les masques du Rwanda viennent de tomber, démontrant à la face du monde son appui militaire aux terroristes du M23. La fédération de l'UDPS Matadi est prête à mettre à la disposition du commandant suprême, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses combattants pour rejoindre les militaires à l'est du pays afin de participer activement au délogement des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda.
Le gouverneur intérimaire Justin Luemba, qui a reçu leur mémo, a salué l'initiative de ces militants. Il a promis de transmettre leur mémorandum à qui de droit. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, sur le terrain, calme et précaire régnait hier mercredi, au troisième jour de l'occupation de Bunagana par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Des détonations ont cependant été entendues pendant quelques minutes dans la région mardi dans la soirée et hier mercredi en milieu de la journée, à en croire des sources civiles et militaires. Pendant ce temps, le trafic sur l'axe routier Rutshuru-Bunagana reste coupé au niveau des Prémidis, à quelques 3 km du centre de Bunagana. Les troupes de la MONUSCO se trouvent présentement en position défensive à 4 km de Bunagana. Dans le cadre des opérations en cours déclenchées par les FARDC, les casquets bleus de la MONUSCO apportent leur appui à l'armée congolaise pour la reprise de cette localité passée aux mains du M23 depuis le 13 juin dernier. Déclaration du porte-parole de la force onusienne, le lieutenant-colonel Frédéric Harvey, au cours de la conférence de presse des Nations Unies hier mercredi 15 juin ici à Kinshasa. Les propos de l'officier onusien sélectionné par Honoré Missenga Kalala.
L'opération dans la région de Rutshuru a commencé peu après que les militaires du M23 aient lancé une attaque contre les troupes de la MONUSCO à partir de plusieurs directions. Les troupes de la force de la MONUSCO ont riposté proportionnellement en utilisant les moyens les plus appropriés. Depuis le 22 mai 22, les troupes de la MONUSCO sont déployées dans la zone générale pour dissuader le M23 de commettre de nouvelles atrocités. Le 13 juin 2022, la position de Bunagana était tenue par les FARDC. Avant et jusqu'à ce que le M23 ne s'en empare, les troupes onusiennes sont en position défensive présentement à environ 4 km de Bunagana. Avec les activités opérationnelles en cours dans la zone générale de Rutshuru, la force, tout en se soutenant mutuellement des FARDC, envisage de reprendre la position de Bunagana pour normaliser la vie de la population locale.
Par ailleurs, au cours de la même conférence de presse, la porte-parole adjointe de la MONUSCO a fait part du message de la représentante spéciale, Mme Bintou Keïta, réitérant son appel à la cessation des hostilités, à la désescalade et à la retenue dans l'est de la RDC. Le message de la chef de la mission onusienne invite également les acteurs du conflit à la compassion pour que cessent les massacres des civils, des femmes et des enfants, surtout tout en appelant les groupes armés à donner une chance à la main tendue par les chefs d'État Félix-Antoine Tshisekedi et Uhuru Kenyatta à travers le processus de Nairobi. Et puis, sans l'implication des politiques, le travail d'éducation à la paix et de médiation dans la région des Grands Lacs n'aboutira pas à l'avènement de la paix. C'est ce que pensent les experts des différents pays de la région de la CIRGL qui ont pris part aux travaux de la table ronde régionale conjointe sur la paix et la sécurité organisée par cette organisation sous-régionale et qui se sont clôturés hier mercredi à Bujumbura. Pour le recteur de l'Université catholique de Saint-Pierre de Goma, tant que les politiciens et les éducateurs de paix n'attacheront pas la même valeur à la paix, la situation dans les pays de la région ne sera pas stable. L'abbé innocent Nyiri Ndekwe l'a dit au micro de Rosalie Zawadi.
La paix, c'est une valeur. La cohabitation, c'est une valeur. Être dans sa propre patrie, c'est une valeur. Il y a des choses qu'on ne négocie pas, mais il y en a qui les comprennent et d'autres qui ne les comprennent pas. Nous n'avons pas la même compréhension ou les mêmes intérêts que les acteurs politiques. Nous travaillons autant d'années. Moi, c'est parmi les choses qui m'ont frustré en venant même ici. Je me dis, au fond, nous, on est en train de travailler sur quelque chose d'important pour la stabilité et le développement de nos pays de Grands Lacs, mais nous avons l'impression qu'il y a d'autres qui travaillent pour d'autres agendas et qui ne veulent pas que la paix vienne parce qu'ils ont des intérêts mafieux. Je me dis alors, est-ce que la valeur que nous donnons à la paix, c'est la même valeur que eux donnent à la paix? Mais en tout cas pour nous, on est convaincus que la paix doit partir en amont d'abord. Il faut éduquer les enfants dès les bas âges. Alors si on réussit ce pari-là, oui. Mais on peut être contrecarré, comme nous le voyons. Moi, je suis à l'université, que les universités deviennent de plus en plus des milieux ou des politiques sincères pour pouvoir mobiliser la jeunesse pour leurs intérêts.
L'abbé innocent Nyiri Ndekwe propose une conscientisation individuelle de tous les dirigeants de la région. La RDC devrait adopter une approche moderne et mature dans le conflit qui l'oppose au Rwanda. Pour le docteur Jose Kimonyo, expert congolais en politique économique, la RDC n'a pas besoin de s'engager dans une guerre militaire contre le Rwanda. Il recommande aux autorités de préserver le capital humain congolais et d'exploiter plutôt l'avantage économique que détient la RDC sur le Rwanda. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
on ne doit pas s'engager dans une guerre armée, parce qu'elle est aussi inutile. Mais on sait que le Rwanda a un problème avec l'Ouganda, elle est fermée au Burundi, elle a un problème avec la Tanzanie. On est le principal acteur économique pour le Rwanda. On sait qu'on a l'avantage. Le Rwanda ne peut pas vivre sans le Congo, mais le Congo peut vivre sans le Rwanda. Quelles sont les clés pour faire peur sur le plan économique? C'est simple. On peut passer, par exemple, une loi interdisant tout citoyen congolais ou toute compagnie enregistrée au Congo de faire des transactions, du business avec tout citoyen rwandais ou avec le Rwanda. Juste la notion en elle-même, même si elle est complexe dans son application, ça perturbe l'économie du Rwanda. On n'a pas besoin de faire une guerre militaire au Rwanda. Juste économiquement, ça a beaucoup plus d'impact. Kagame a une peur de s'engager dans une guerre économique avec le Congo, parce qu'elle va perdre beaucoup. Elle n'aura même pas moyen de financer sa guerre, même son développement. Alors, dès qu'on met le clou à un bon endroit, l'impact interne au Rwanda va le faire changer d'avis, ou il sera plus simple quand il y a la question des relations entre la RDC et le Rwanda.
Début ce jeudi dans la capitale du Cuivre, dans le Haut-Katanga, du colloque sur l'itinéraire du vivre ensemble organisé par l'archidiocèse de Lubumbashi. Plusieurs communautés nationales et internationales ainsi que de nombreuses structures politiques et celles de la société civile y sont attendues. Jean Gandou, comment les communautés vivant dans la ville de Lubumbashi appréhendent-elles la notion du vivre ensemble qui est au centre de ce colloque?
La notion du vivre ensemble est de nos jours très utilisée dans de nombreuses rencontres pour la promotion de la paix qui sont organisées dans la ville de Lubumbashi. Cette ville qui accueille aussi ses colloques comprend plusieurs communautés qui se côtoient au quotidien et cela dans plusieurs domaines. Si en général leurs relations sont bonnes, par moments elles évoluent en dents de scie. Et parmi les communautés qui vivent dans la capitale du Cuivre, se trouvent aussi les Bonvois Nobabatabwa qui renferment les ressortissants de Moba dans le Tanganyika. Comment cette communauté appréhende-t-elle cette notion de vivre ensemble? François Moulila, président de la jeunesse des Bonvois Nobabatabwa.
Nous devons aller au-delà de nos différences tribales, ethniques, sociales, même après que nous ayons dépassé le stade de nos différences, que nous puissions maintenant vivre ensemble comme peuple.
La communauté kassaïenne est également présente dans la ville de Lubumbashi. À son tour, comment conçoit-elle la notion du vivre ensemble? Dadi Kazadi Wambombo, président de la jeunesse du Grand Kassaï vivant dans l'espace Grand Katanga.
La notion de vivre ensemble est tout simplement les mécanismes que nous devons mettre en place pour arriver à adapter notre façon de nous comporter par rapport aux autres. Donc c'est par des conseils que nous sommes en train de prodiguer à nos frères, pouvoir vivre mieux avec les autres.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis en plus bref, le chef de l'État a reçu hier mercredi devant le congrès du Parlement au Palais du Peuple le serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle qu'il venait de nommer. Il s'agit de Dieudonné Mandia Andia, Christian Bahat Yuma et Sylvain Lumumbaya, respectivement venus du Parlement, du Conseil supérieur de la magistrature et du Président de la République. Ils ont juré loyauté et fidélité au magistrat suprême, à la Constitution, l'impartialité et de garder les secrets de leurs délibérés. Le chef de l'État a pris acte de leur serment. Si Christian Bahati a été présenté par le Conseil supérieur de la magistrature, Sylvain Lumu, avocat défenseur des droits de l'homme et enseignant du droit à l'UNIKIN, était jusque-là directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale. Quant à Dieudonné Mandia, il était sénateur. Les 3 juges remplacent ainsi les 3 anciens juges tirés au sort, dont Dieudonné Kalouba, Prince Funga Molima et Polycarpe Mongoulou décédés. Autre nouvelle, début hier mercredi à Matadi au Congo central, des études préparatoires géotechniques au renouvellement de la couche d'asphalte du pont Maréchal. Elles sont effectuées par une mission de la JICA, la coopération japonaise et des experts congolais. La directrice générale de l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa OEBK s'est rendue sur terrain pour se rendre compte de l'effectivité de ces travaux. Gloria Toluca se réjouit que son cri d'alarme lancé lors de la célébration des 39 ans d'existence du pont Maréchal ait trouvé un écho favorable. Le point avec Nana Purichimambo.
Ces études géotechniques préparatoires pour la réhabilitation de la chaussée du pont Maréchal et de ses routes d'accès ont pour plan les décapages de certaines parties d'asphalte de cet ouvrage. Question selon Guilain Kimbouine, directeur technique de l'OEBK, de se rendre compte de l'état dans lequel se trouve la plateforme en acier sur laquelle repose la couche de roulement, pour ainsi mesurer l'ampleur des conséquences de la filtration des eaux de pluie sur cette ossature via les fissures et nids de poules durant plusieurs années. La directrice générale de l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, OEBK, s'est dit satisfaite de ses études et rassure la population quant à la pérennité du pont Maréchal. Gloria Toulouka.
Le cri d'alarme lancé a été entendu et nous sommes très contents de cette première délégation qui va battre un travail, des études préparatoires pour enfin revenir sur l'année prochaine pour les débuts des travaux.
Pour la partie japonaise, ces études illustrent la bonne coopération nippo-congolaise.
Ce pont a été réalisé par le Japon. Et depuis, nous avons toujours gardé une bonne collaboration avec enfin l'OEBK. Nous espérons continuer à avoir ce lien qui est très étroit entre le Japon et le Congo.
Notons que les travaux du renouvellement de la couche d'asphalte du pont Maréchal dont les études préparatoires sont en cours devraient être réalisés 25 ans après l'inauguration du pont. Aujourd'hui, 39 ans après sa construction, cet édifice est parsemé de fissures et de nids de poules. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Mali commence à retirer ses soldats du G5 Sahel. Bamako avait annoncé le 15 mai son retrait du G5 Sahel après avoir constaté que la présidence tournante de l'organisation qui lui revenait en principe ne lui était pas dans les faits accordée. Le chef d'état-major des armées du Mali qui en a donné l'ordre mardi 14 juin dans un document classé confidentiel qui a opportunément fuité, le général Oumar Diarra met fin à l'engagement des soldats maliens affectés au poste de commandement du G5 à Bamako.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Yacine Songi, directeur adjoint de la raffinerie d'or qui sera très prochainement implémentée à Bukavu. Quel sera son apport dans l'économie de la province? Il s'entretient ici avec Cynthia Bachizi Nabizana. Suivez.
Yacine Songi, bonjour.
Bonjour.
Première raffinerie d'or dans toute la RDC. Est-ce qu'ici vous pouvez nous donner les différentes caractéristiques de cette usine?
C'est une usine qui rassemble plusieurs processus. Le processus de la fonte, du raffinage et la conception à l'or pur.
Et donc quel produit final vous visez avec cette raffinerie?
Le produit que l'on vise, c'est le produit fini, c'est-à-dire qui est passé par tous les processus. Et le produit final qu'on aura, c'est une or à 99,999%. Donc comme on dit les 4-9, voici le produit fini qu'on va proposer.
Ce sont des lingots que vous allez émettre?
Oui, des lingots, tout est selon le marché international. Donc lorsqu'on le va exporter, nous serons aptes à proposer notre produit dans le marché.
Et vous comptez exporter où cet or? Vers Dubaï ou vers tous les autres marchés?
Écoutez, Dubaï est connu pour son marché de l'or, mais ça peut très bien être les autres marchés, la Chine, l'Europe, l'Amérique. Il n'y a aucun problème. Comme je vous ai précisé, nous sommes aptes à proposer notre produit dans le marché international, car la raffinerie est sous les normes internationales.
Le secteur de l'or est caractérisé par une grande contrebande, donc il y a vraiment une grande fraude dans cette filière-là orifère. Comment est-ce que vous comptez vous approvisionner? Comment est-ce que vous comptez vous approvisionner avec un or qui soit propre?
Comme je l'ai précisé ici à la table ronde présentement à Kinshasa, au niveau de l'approvisionnement, nous sommes en pleine discussion avec le gouvernement des pourparlers qu'on a depuis quelques temps déjà. Il faut qu'on centralise la taxe pour pouvoir proposer un prix beaucoup plus attractif. Ce qui permettra aux négociants, à l'artisan ou différentes autres entités à venir déposer leurs produits chez nous.
Quelles sont vos perspectives de développement sur le long terme?
Sur le long terme, c'est de viser les sites miniers, avoir des PR, des permis de recherche au niveau des sites miniers dans les normes. Cela va permettre un approvisionnement à long terme.
Cette raffinerie, c'est un gros investissement. Et vous êtes sûr de pouvoir rentabiliser votre argent que vous avez investi dans ce projet?
Le potentiel de la RDC, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'élaborer. On est tous au courant le potentiel qu'on a ici en RDC, surtout dans l'Est. Donc on compte sur le long terme pour pouvoir récupérer tout cet investissement.
En termes d'avantages, quels seront vraiment les bénéfices sur le long terme pour la population de Bukavu et pour le Congolais, je veux dire en général?
Alors, j'ai aussi précisé ça à la présentation, c'est que je ne peux pas vous donner un chiffre exact combien de Congolais j'aurai, mais je l'ai présenté, je travaille avec déjà une équipe locale. C'est possible que j'ai des expatriés, quelques expatriés, mais c'est pour donner des formations. Et bien sûr, nous avons une capacité de raffiner 200 kilos d'or par jour. C'est que le début. En allant vers l'avant, nous pouvons même doubler cette capacité, ce qui permettra d'engager et de créer de l'emploi au niveau local et national.
Une raffinerie d'or, c'est une grosse usine qui demande beaucoup d'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur du déficit énergétique que l'on constate parfois à Bukavu avec des coupures intempestives ou un courant dont le voltage n'est pas assez stable?
Bon, je suis muni de deux groupes électrogènes, donc en cas de backup, je suis déjà en sécurité. Mais comme je vous ai dit auparavant, c'est que nous sommes en discussion avec le gouvernement. On a d'énormément de pourparlers concernant notre raffinerie et c'est l'un des problèmes qui va être réglé. Nous trouverons une solution à ça car nous avons aussi un transfo à alimenter et avec beaucoup de machines nous avons besoin d'énergie. Donc je crois au gouvernement, je suis tout à fait positif sur ce niveau-là.
Pour terminer, quel sera votre plus grand défi dans ce projet?
Écoutez, c'est de centraliser toutes les personnes, les artisans, les négociants, les entités. Il faut qu'ils comprennent quel sera notre objectif, notre processus. Je pense que là est notre plus grand défi. Mais je pense qu'ensemble, si nous travaillons tous ensemble, nous irons de l'avant et ça sera une énorme plus-value pour le pays.
Bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup, Madame Cynthia.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.